I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
Salut à toutes et à tous, vous avez un groupe WhatsApp familial avec toutes vos tatis et vos cousins.
C'est vrai.
Eh ben détendez-vous, vous écoutez le chip. Je m'appelle François Oulac et je suis, encore, toujours accompagné de Mélanie Manga.
Salut, salut.
Et de Kevin Donna.
Kevin Donna is my name and fucking up motherfuckers is my game.
Oh, oh yeah. Okay. Il reste moins d'un mois pour précommander le chip, le jeu de société très cool qu'on a créé. Il y a un lien Ulule, le chip, le jeu, ça coûte 30 euros, c'est cher mais la qualité est au rendez-vous. Je vais vous avouer un truc un peu honteux, j'ai précommandé une boîte moi-même. Est-ce que c'est triché pour vous?
J'en ai commandé deux moi-même.
J'en ai pas commandé, mais je compte en commander.
Ah, t'en as pas... En fait, je dis que c'est honteux, mais ouais, je commande.
Ouais, non, je commande si les auditeurs et les auditrices commandent aussi.
Black people don't support black people, hein.
Exactement.
Bref, on fait une soirée iconique le 15 novembre au Bloc, c'est un super bar.
21 rue Brochamp.
21 rue Brochamp dans
à
le 17ème.
Paris.
Métro Brochamp, c'est l'occasion voilà, de turn up, de se mettre bien, de découvrir le jeu évidemment, parce qu'on aura un prototype à vous montrer. Ce sera l'occasion de nous découvrir, nous, de boire des verres, de danser. Si tout va bien, on aura un DJ set, et voilà, c'est moi et le DJ qui nous occuperons de la musique, donc soyez sûrs que les démons de minuit seront prohibés.
Les lacs du Connemara.
Également.
Ok.
Bref.
La tribu de Dana. Non, d'accord.
La tribu de Dana.
Même pas. Non, non. Mélanie, non, tu sors.
En vrai, je pourrais un jour, mais non, pas ce soir-là. Non, ce sera ambiance rap, dancehall, trap, afrobeat. Turn up. Bref, dans cet épisode, Mélanie va vous expliquer pourquoi Succession, la série phénomène de HBO, est la plus noire des séries blanches.
Oui, tout à fait.
Et puis Kevin va nous parler de Dolemites, le dernier film d'Eddie Murphy. Est-ce qu'on peut dire qu'Eddie Murphy est redevenu cool?
Il est revenu, il est là.
Il est back.
Il est back dans les bacs.
Et toi aussi, t'es back, parce que t'avais déjà parlé d'Eddie Murphy il y a quelques
années. C'est ça, c'est ça.
Tous les deux épisodes.
C'est ça, tous les deux épisodes, je parle d'Eddie Murphy. Non, on va voir, c'est cool.
On va faire une petite mise à jour.
Ouais.
Mais bon, d'abord, petit échauffement avec notre trash iconique. Alors c'est moi qui commence, j'ai un iconique pour Bobby, un humoriste martiniquais, B-O-B-I, qui m'a fait une très agréable surprise dans son dernier clip. Bobby, c'est un spécialiste en fait des parodies sur le web. Il a commencé en fait en faisant des doublages de séries. Il prenait des extraits des Feux de l'amour et
de telenovelas.
De telenovelas, ouais, qu'on regarde beaucoup là-bas. Et puis il refaisait les voix des personnages avec son propre humour et puis ses propres sous-titres. C'était assez marrant. Il a aussi fait de la scène. Il s'est produit à l'Atrium de France.
Ouais.
Et puis il fait aussi des parodies musicales. Donc voilà. Sauf que dernièrement, en fait, il a parodié le dernier single de Kalash qui s'appelle Mada.
Je suis un ego de Mada. L'eau, les balles pleuvent comme les mamas. Et tous les jours, je ride for my nigga.
Voilà, donc le morceau du dernier album de Kalash, Diamond Rock, que je vous conseille d'ailleurs d'écouter parce que moi j'ai bien kiffé. Et donc Kalash, il a repris. Bobby a repris du coup le morceau de Kalash et il en a fait ça.
Putain, j'ai vu l'eau de Mada. Là où les cancers pleuvent comme des Walpas. Et tous les jours, je bois du Chlordécone. Mange du Chlordécone, bon, dans mon malita. Et la banane n'est pas comme ma paname. Juste la pour te rendre malade. Et le contaminé coule dans les tuyaux et le peuple subit les ravages. Scandale petit, oh no, oh, le gomito, boum boum, complot politique, détourne la monnaie, fond de la monnaie, brr, brr, c'est pas nous, tu pour la monnaie. Les sentiers ont la rage, empoisonnés dès le plus jeune âge, notre avenir en famille en cage.
Donc, bref, dans le morceau, en fait, il parle de l'empoisonnement au chlordécone, donc le pesticide qui a été utilisé de 72 à 93 aux Antilles françaises dans les exploitations de bananes, alors que le produit était réputé dangereux et était déjà interdit aux États-Unis. Donc, on a déjà parlé du chlordécone, notamment quand Kevin, tu parlais de la BD là, de Jessica Oublié.
Ouais, Jessica Oublié, ouais, c'est vrai.
Tropique toxique.
Ouais.
Donc voilà, on a utilisé le chlordécone de 72 à 93. Le lobby de la banane a même obtenu des délais, en fait. Il a été interdit en 90, et puis ils ont réussi à obtenir de l'État de continuer à l'utiliser encore pendant 3 ans.
Parce que le poison, c'est tellement bon.
Parce que le poison, c'est tellement bon, on dirait presque un slogan. Résultat, la Martinique a le taux de cancer de prostate le plus élevé au monde. Voilà. Donc la parodie de Bobby, ça m'a fait plaisir parce que d'habitude, Bobby, en fait, il est drôle, mais il est assez potache, si vous voulez.
Pipi, caca.
Voilà. Pipi caca ou juste fesses, mais bon voilà, il est potache. Bobby, il est connu pour des clips comme Jimmy Contrarieux, où il se fout un peu de la gueule où il parodie le chanteur de Zouk Jimmy de Varieux. On connaît aussi Wawa Nakamura, où en fait il reprend Jaja, sauf qu'en fait cette fois-ci Aya Nakamura est une walpa, c'est-à-dire qui vit
une femme aux mœurs légères.
Voilà, ou ce qu'en France on appelle aussi des michetos, on va dire. Il a fait également Mwakamoun de Kalash. En fait, Kalash c'est un bon pote à lui, donc il reprend souvent les morceaux de Kalash, et donc il avait repris Mwakamoun pour faire Kakamoun, donc voilà, c'était... Si tu veux, Bobby, c'est un peu l'équivalent martiniquais du Palmacho, pour te situer son positionnement et ce qu'il fait, et son type
d'humour. Sans le blackface, du coup.
Sans le blackface, et avec du talent musical aussi. Parce qu'on est en Martinique, et qu'en Martinique, même quand on prend pas la musique au sérieux, on prend la musique au sérieux. Et donc là, je trouve que Bobby, il était à la fois très drôle, comme d'habitude, mais aussi... très, très politique, très dénonciateur. Et du coup, dans le morceau, il dénonce les politiques corrompues, il dénonce le manque de solidarité en Martinique, le manque de reconnaissance aussi du drame sanitaire qu'est le chlordécone, puisque concrètement, le chlordécone, il est infiltré dans les eaux, il est infiltré dans les terres, il est infiltré dans tous les produits locaux, dans tout ce qui pousse, même dans les pluies, je crois. Non, je suis pas sûr.
Chiap.
Bref, en gros, le chlordécone, on en a pour environ entre 500 et 700 ans pour qu'il s'élimine naturellement, et la quasi-totalité de la population de Guadeloupe et de Martinique est concernée. Donc c'est un problème très grave, et je trouve que pour une fois, Bobby a fait un taf un peu, il est devenu un peu plus incisif sur ce morceau, et je trouve ça très cool, ça répond un peu à la fonction primordiale de la comédie, vous savez, qui est de corriger les mœurs en riant. Voilà.
Amen. Quel talent.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une vague d'hystérie qui sévit autour du voile en France en ce moment, on peut le dire. Et c'est vrai que nous, dans l'émission, d'habitude, on n'aime pas trop parler des, entre guillemets, « blancs problématiques ». C'est un peu notre ligne éditoriale. Par exemple, les élucubrations islamophobes de ou les propos pénalement condamnables de sans oublier, du coup, les délires complotistes de. Parce que pour ça, en fait, il y a les chaînes de la TNT et les réseaux sociaux, donc il n'y a pas besoin du chip. Mais il y a quelques jours, on a demandé, pas nous, mais quelqu'un, a demandé à Audrey Pulvar, une femme noire, donc, son avis sur le voile. Et là, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt trash. On peut l'écouter.
Moi, je suis très claire par rapport à tout ça. Je suis militante féministe et je pense que le voile est un outil d'infériorisation des femmes, de soumission des femmes. Donc, je suis de toute façon contre le port du voile dans son principe. Après, je respecte la liberté religieuse, je respecte le choix apparemment éclairé de certaines femmes de porter le voile et la loi. Il y a déjà des lois, plusieurs lois qui règlent ces questions-là.
Alors voilà, le truc c'est que des prises de parole de femmes noires écoutées en France, on n'en a pas beaucoup. J'ai envie de dire, on en a trois. On a la journaliste Rokhaya Diallo, on a la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, et on a la journaliste et les radios, Audrey Pulvar. C'est un peu
T'oublies la militante activiste et intellectuelle Absa Toussi. Je plaisante.
J'ai eu peur, je me suis dit j'en ai oublié une, mais non. voilà, alors... Moi, au départ, on a voulu faire cette chronique sous forme de sondage sur Twitter pour recueillir ce que vous aviez à dire de la posture d'Audrey Pulvar et des débats sur le voile en général. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça posait un peu problème et que c'était un peu... comme il n'y a pas beaucoup de caractères sur Twitter, en gros, on s'est un peu retrouvé dans la posture l'islamophobie trash ou iconique. Donc, on a supprimé le tweet parce que, effectivement, c'était pas la bonne manière d'en parler. Moi, j'aurais bien aimé voir vos réactions à vous parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment les femmes noires, en particulier, s'expriment sur ce sujet dans l'espace public. Mais du coup, on va faire le sujet directement, parce que c'est quand même assez sensible vu qu'on parle d'islamophobie.
Alors moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça un peu ironique aussi. Parce que, en fait, j'ai passé 2 jours à parler dans une école de journalisme de racisme et d'islamophobie. Et j'expliquais à mes élèves, justement, que la race, ça fonctionne un peu comme un angle mort. Tu vois, ça fonctionne un peu comme un angle mort dans l'inconscient collectif. Et que, du coup, on était tous sujets à ce genre de vision-là. Et du coup, quand on a fait le sondage, quand on a fait ce sondage, je me suis dit, putain, mais c'est marrant parce que ça fait, je viens de sortir de là, je viens d'expliquer aux élèves, oui, les femmes voilées, etc., c'est important, il faut les représenter. Et du coup, je pense que c'est une leçon, en fait, parce qu'on parle beaucoup dans cette émission de wokeness, de cancel culture et de trucs comme ça. Et pourtant, personne n'est à l'abri de ce genre de trucs. Donc, vraiment, désolé. Et désolé aux personnes, aux femmes voilées qui ont répondu en commentaire et qui se sont senties blessées. Oh putain, j'ai l'impression d'être Antoine Griezmann, oh mon dieu. Non, toutes nos excuses, c'était maladroit.
Voilà, pour revenir à ces trois femmes, deux d'entre eux, donc c'est Audrey Pulvar et Sibeth Ndiaye, pour moi, défendent absolument rien d'autre que leur propre posture dans l'échiquier, en fait, leur propre place. Et quand elles parlent, quand elles s'expriment sur le voile, elles ne parlent pas tant des femmes voilées que de leur rôle à elles dans notre société qui est islamophobe et raciste. Et voilà, on peut aussi souligner ce que Sibeth Ndiaye a dit, elle, sur le voile.
Mon sentiment personnel, c'est que le voile est plutôt en lien avec quelque chose qui tient de l'ordre de l'oppression de la femme. C'est ma conviction de féministe. Mais je sais aussi, parce que j'ai vécu très longuement en Seine-Saint-Denis, où vous avez une communauté musulmane importante, je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne le ressentent pas comme telles. Quel est mon devoir politique ? C'est de m'assurer que les femmes qui font le choix de porter...
Voilà, donc Sibeth Ndiaye est comme Audrey Pulvar, et comme beaucoup d'autres, elle se pose en juge un peu surplombant des choix de toutes les femmes dans le monde entier, parce qu'elles sont féministes, ouvrez les guillemets, universalistes. Donc ce féminisme-là, il est très présent dans les médias, parce que c'est quand même le féminisme typique d'une certaine bourgeoisie blanche à la française, qui est un peu un féminisme soluble dans une idéologie un peu néocolonialiste. Donc on peut noter dans les deux interventions le mépris, en fait, des femmes envers les femmes qui portent le voile. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le mépris d'Audrey Pulvar et dans une moindre mesure celui de Sibeth Ndiaye envers les femmes qui portent le voile, elle parle de choix apparemment éclairés. Apparemment, les femmes qui portent le voile auraient des facultés de réflexion. On demande à voir. Et je trouve que ce mépris-là, il rappelle le dédain que des personnes blanches peuvent avoir parfois pour des personnes racisées quand elles s'expriment ou quand elles font des choix. Et donc, je trouve qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que des femmes noires à qui le système ne ferait absolument pas ce genre de cadeau se permettent, elles, de dire « Voilà, moi, je suis un peu la gardienne du temple du système et je te dis, toi, femme racisée, ce que tu peux faire ou pas pour rentrer dans ce système-là. » Et c'est intéressant parce que ce système-là, il n'a absolument pas été conçu pour les personnes qui ressemblent à Audrey Pulvar ou à Sibeth Ndiaye ou à nous.
Mais elles le défendent quand même.
Mais elles le défendent. Et la posture de Sibeth Ndiaye est pour le coup un peu moins extrême, mais elle est toujours très paternaliste. En fait, moi j'ai vécu, moi je les ai vues ces femmes, je sais ce dont elles ont besoin, plutôt que de laisser les femmes qui portent le voile s'exprimer. Alors, une autre chose intéressante, c'est qu'en cherchant l'extrait d'Audrey Pulvar, qui a beaucoup circulé sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il avait été relayé que par des sites et des blogs d'extrême droite. Il n'a pas été posté sur des journaux, on va dire, classiques. Et du coup, je pense que en ne prenant pas la parole pour soutenir justement ces femmes minorisées sous le prétexte qu'on est féministe universaliste, Audrey Pulvar, elle remplit son rôle de gardienne du temple de l'islamophobie, tout comme Sibeth Ndiaye. Et du coup, je trouve que c'est un trash parce que les femmes noires qui prennent la parole sur la place publique, on a vraiment besoin que vous fassiez mieux. Voilà. Alors, je vais vous parler de la série Succession, parce qu'on a voulu vous en parler, parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de voir comment la black culture s'est emparée justement de Succession. Alors Succession, c'est quoi ? C'est une série de HBO qui est diffusée du coup en France sur OCS, et c'est une série qui parle d'une famille pas comme les autres, les Roy. Alors les Roy, ils sont riches, mais pas juste un petit peu riches, vite fait en passant, hein. Ils sont milliardaires. Logan Roy, c'est le padré, le patriarche, le fondateur de ATN, une chaîne de télévision d'information et de divertissement de droite. En gros, il faut penser à Fox News, à peu près. Hein. Sauf que Waystar Royco, l'entreprise de Logan Roy, c'est aussi des croisières et des parcs d'attractions. En gros, sa boîte, c'est un peu une version cauchemardesque de branding culturel continu. Logan Roy, c'est un carnassier, c'est un capitaliste qui détient le pouvoir sur le pays grâce à son empire du divertissement. Donc on n'est pas très loin de la réalité quand même. Et Logan est entouré de ses enfants
gâtés jusqu'à la moelle, qui ont tous les dents qui raillent le parquet et qui veulent tous hériter de la boîte. C'est le concept de la série.
Ouais.
Donc, dans les enfants, on a Kendall Roy, qui semble un peu être le successeur naturel. On a Siobhan Roy, qui est la fille, qui est conseillère politique et qui ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à Ivanka Trump, dans la manière dont elle est conçue. On a Roman Roy, qui est incarné par le frère de Macaulay Culkin. Donc, vous voyez Macaulay Culkin.
Kieran
Culkin. Ouais. Bah, c'est lui.
Il a joué dans d'autres trucs.
Ouais, il a joué dans d'autres trucs, mais j'ai oublié quoi.
Ouais, pareil. Mais en gros, t'imagines la tête de Macaulay Culkin en brun, quoi.
D'accord.
Et pour finir, on a Connor Roy, qui lui est le grand frère qui n'est pas en lice parce qu'il est trop occupé à végéter sur l'argent de sa famille.
Et puis je crois que c'est le demi-frère des autres, issu d'un premier mariage.
C'est ça. Ouais. Et il dépense l'argent de son père.
Génial.
Il lui demande, t'as pas 100 millions ? Enfin bref. Donc la famille Roy, c'est une décalcomanie assez claire de la famille Murdoch, qui détient Fox News, et de la famille Trump, qu'on va plus présenter.
Qui détient la Maison Blanche.
Et d'ailleurs, le fils Murdoch, anecdote, regarde la série, mais dans un premier temps, il a nié la regarder à un journal quand on lui a demandé. Il a dit non, ce qui était quand même un assez bon indicateur du fait qu'il l'avait au moins vu une fois. Alors, vu comme ça, on se dit, cette série, ça concerne pas vraiment un public noir. Hein. Et pourtant, on dit souvent que les séries noires, elles doivent crossover, elles doivent traverser pour parvenir jusqu'à un public blanc. Mais Succession, j'ai l'impression, elle a fait l'inverse. En tant que série blanche, elle s'est imposée comme un rendez-vous pour le Black Twitter en général et la hip-hop culture en particulier. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le site Very Smart Brothers.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est un site de pop culture tenu par des Afro-Américains. Et ils ont fait un article et ils ont trouvé pour moi la formule parfaite pour exprimer ce qu'on ressent en tant que spectateur noir devant Succession. Ils ont publié donc un article qui s'intitule « Je viens de binge-watcher la saison 1 de Succession et j'ai l'impression d'avoir fait un safari découverte des Blancs ». Et dans l'article, l'auteur raconte qu'au moins 5 personnes noires de son entourage lui ont dit « Il faut absolument que tu regardes Succession, these white people are insane !» Ces blancs sont zinzin en VF. Donc pour essayer de situer un peu Succession, c'est comme si Empire avait été une série réaliste dans les histoires justement de Succession. Il y a aussi un peu de Dynastie et de Dallas et un peu de Arrested Development. Je sais pas si vous avez vu cette série.
Arrested Development,
t'appelles ces séries-là des séries réalistes, soit genre Arrested Development ou Dallas ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est des soaps totales, quoi.
Justement, je dis que Succession, c'est un peu une version
réaliste de ça, qui s'installe dans un monde un peu réel avec des enjeux politiques.
Et Arrested Development pour le côté comédie complètement barré. Et je trouve aussi que ça tient du documentaire, en fait, Succession. Franchement, on y croit. Hein. On y croit à 100%. Mais c'est... Alors, la série trouve cet équilibre entre le côté ultra drôle, ultra satirique, et le côté où tu dis, mais en fait, on va tous mourir si c'est ces gens-là qui décident de l'avenir de la planète. Donc, c'est à mi-chemin entre la tragédie familiale shakespearienne, qui est un peu la marque de toutes les grandes séries HBO, donc comme Les Sopranos, comme The Wire, et c'est aussi un peu une comédie satirique où tous les personnages sont horribles. Si vous regardez Succession et que vous me dites, j'adore ce personnage, je comprends qu'en fait, vous l'adorez parce qu'il est horrible, mais dans la vraie vie, vous le détesteriez. Ouais, d'accord.
Ah, je sais pas. Cousin Greg, moi c'est non, j'aime beaucoup Cousin Greg.
C'est pas possible.
Donc, c'est du hate watch sur cette série ?
Non, c'est pas du hate watch parce que c'est incroyable à regarder, c'est magnifiquement bien écrit, les dialogues sont ouf, enfin il y a même des vidéos dédiées au décryptage des dialogues de la série, tellement c'est incroyable. Mais par contre, enfin moi ça me fait vraiment peur de me dire qu'il y a des gens comme ça qui existent dans la vraie vie quoi, ça me donne des palpitations hein. Donc il y a un côté The Wire, mais il n'y a pas que ça, et j'ai envie qu'on explore les aspects de la série qui en font un peu un must-see de la black culture et qui expliquent notamment la reprise de la série à travers des mèmes sur Internet. Donc d'abord, il faut qu'on parle du générique, bien sûr. Donc le générique de Succession, c'est ça. Alors, c'est un peu un spécimen étrange qui mêle une mélodie de musique classique sur un beat hip-hop avant de dériver sur un côté un peu de cirque, un peu dégénéré. Donc, le site de pop culture américain Vulture a élu ce générique tube de l'été 2019. Le compositeur Nicolas Britel, qui avait entre autres travaillé sur 12 Years a Slave, Moonlight, Sybil Street pouvait parler, Vice, etc., a remporté un Emmy Award pour la chanson au dernier Emmy Award. Et c'est devenu le genre de générique que tu sautes pas quand tu regardes la série, quoi qu'il arrive. Mais du coup, en fait, ce générique-là, il a pris un peu une vie inattendue. Dans un premier temps, HBO a contacté le rappeur américain Pusha T, ennemi de Drake, pour enregistrer un rap par-dessus. Et du coup, ça donne ça. If you love me, please don't judge me. Got my hands tied, the power's above me. Don't shoot the messenger, I'm just a puppet here. If you wanna place blame, then look to the puppeteer. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on, legacy, secret, sabotage, borderline.
Ça, ça devait être un générique officiel, en fait.
Non, non, c'était à la fin de la saison, pour fêter la fin de la saison. Ils ont proposé à Pusha T. Et Pusha T a donné une interview où généralement, il dit généralement, je dis toujours non, mais en fait, je suis un méga fan de Succession. C'est trop bien. Et c'est mon manager qui m'a dit de regarder Succession parce que je lui faisais penser à Logan Roy, qui est quand même la pire ordure de la série. Wow. Donc, c'est assez flippant. Donc déjà, il y a ce côté validation par la scène hip-hop. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Britel lui-même est c'est un blanc maigre anglais, mais il est méga fan de hip-hop. Il faisait partie d'un groupe de hip-hop et il a dit que c'était très clairement une des inspirations du générique et de la série en général. Donc l'étau se resserre. Ensuite, à partir de là, il y a eu une mémification du générique. En réponse à la version de Pusha T, on a un auteur et podcasteur afro-américain qui s'appelle Demi Adejube qui tweeté en disant HBO, vous avez rejeté ma version, mais moi je trouve qu'elle est meilleure que ce que vous avez fait avec Pusha T.
Je vais la poster quand même.
Je vais la poster. Et donc c'est une version où les paroles, c'est lui qui chante sur le générique, et les paroles racontent le pitch de la série. Donc je traduis, toutes les personnes riches et blanches vont se disputer, et celle qui gagnera aura le droit à un bisou de papa. Alors je suis désolée, vous allez avoir le générique dans la tête pour les jours à venir là, parce que c'est un peu, on n'y échappe pas une fois qu'on l'a entendu. Ce qui est intéressant, c'est que le cast et même Nicolas Britel sont très présents sur les réseaux sociaux et ils ont répondu à chaque fois à ces trucs-là en disant « c'est génial, merci » et tout. Donc en fait, Succession, qui est pourtant une thématique très resserrée, donc c'est l'intrigue corporate.
C'est 0,1% en fait qui parle à tout le monde, c'est ça qui est génial.
Et ouais. Tout le monde s'y retrouve, ouais. Parce qu'en fait on regarde ça comme si on allait au zoo et qu'on regardait des animaux sauvages s'entre-déchirer. Le hip-hop, très important, Nicolas Britel est fan. Et d'ailleurs, dans un des pires et meilleurs moments de la saison 2, pour continuer dans la musique, le personnage de Kendall, donc le fils qui est censé devenir l'héritier, mais qui en fait, no spoiler, le devient pas vraiment, se lance dans un espèce de rap un peu dérangeant, qui célèbre les 50 ans de carrière de son père, du coup, Logan. Et j'ai envie de dire que tous ceux qui ont assisté à ce moment de télévision en 2019 en sont ressortis changés, pas tout à fait les mêmes. Dude be the OG, and he playing like a pro, see, L to the OG, dude be the OG, and he playing like a pro, make some noise, A1 ratings, 80k wine, never gonna stop, baby, fuck for the time, bro, don't get it twisted, I've been through... C'est génial parce qu'il faut vous imaginer une convention avec des gens très sérieux habillés en costard cravate et un blanc qui dit « Attendez, j'ai préparé une chanson !»
Pour mon papa.
Et il se met à rapper et tout le monde est là genre « Non !»
On dirait un mariage.
« Make some motherfucking noise !»
Un mauvais mariage.
Pour ceux qui ont vu savent de quoi on parle, mais ceux qui n'ont pas vu, regardez ça et ça va changer votre année 2019. C'est vraiment un moment très très grave de télévision. Et d'ailleurs, Kendall est fan de hip-hop, puisque dans le pilote, on voit rapper et danser sur les Beastie Boys. Donc c'est vraiment un fil qui dure toute la série. C'est vraiment l'appropriation culturelle d'une musique sortie du ghetto par une caste blanche ultra riche, ultra conservatrice.
Et qui voit pas le problème.
Et qui voit absolument
pas la contradiction.
Pas le problème. Donc je dirais que c'est une réinterprétation trumpienne un peu du hip-hop. Donc voilà. Ensuite, Succession a été récupéré par les mêmes. On en a un petit peu parlé déjà, Kevin. En termes d'audience, Succession sur HBO, c'est pas grand-chose. Hein. C'est la 17e série de HBO en termes d'audience. Donc, c'est pas un succès incroyable. Mais depuis la fin de Game of Thrones, on pourrait croire que Succession a pris le trône, justement, du coup. Parce que sur Twitter, la série est la plus tweetée de la chaîne après chaque épisode du dimanche soir. Ouais. Donc, Succession a repris après la fin de Game of Thrones. Et bien sûr, du coup, les mèmes s'enchaînent, des chansons, des sketchs. Et du coup, qui mieux que le Black Twitter sait faire des mèmes ? Personne. À l'époque de Game of Thrones, on avait eu le hashtag Demthrones, dont tu étais fan, François. Ouais, tu nous en parlais souvent, qui était un peu le lieu de réaction du Black Twitter sur Game of Thrones.
Totalement.
Et moi, je parie pour l'année prochaine l'arrivée d'un hashtag pour succession, parce que j'ai l'impression que le mot d'ordre est en train de se diffuser dans la communauté et que pour la saison 3, on sera tous au taquet.
Succession, y'all.
Succession, y'all, ouais. Il y a une autre partie qui est assez importante en termes de black culture dans la série, c'est le business. Et je sais que toi, Kevin, t'avais envie de nous parler du business de ATN.
Ouais, en fait, moi je pense que aussi un des succès de succession, c'est le contexte politique en Amérique et la montée des idées socialistes en Amérique. Hein. Le personnage pour lequel travaille Siobhan, une des filles de Logan. Pendant la première saison, c'est une sorte de Bernie Sanders qui s'attaque pas mal à la famille Roy et en particulier à ATN, qui est donc cet organe de presse qui a fait la fortune de cette famille. Donc à travers l'ascension de Tom, le mari de Shiv,
deuxième meilleur personnage,
il passe sans transition de la direction des parcs d'attractions à la direction de la chaîne info, sans problème, sans contradiction, sans rien du tout. Donc dans cette chaîne info, Etienne, on reconnaît un peu Fox News. Il y a notamment la question du recrutement de journalistes populistes, parafascistes, je sais pas trop comment dire.
Crypto.
Ouais, on pourrait penser à des types un peu à la Tucker Carlson aux États-Unis sur Fox News.
Les mecs qui te disent j'ai lu Mein Kampf et c'était génial.
Et c'était très bien. Et moi, ce que je trouve assez fascinant dans tout ça, c'est que il y a une opposition dans la saison 2 entre deux organes, deux médias assez opposés. Qui se rencontrent et qui veulent fusionner. Donc on a d'un côté ATN et de l'autre PGM, qui est représentée par la famille Pierce, qui elle est une famille beaucoup plus acceptée ou acceptable dans les milieux intellectuels, parce que justement ça gagne des prix Pulitzer. Bah, centre-gauche pour le coup,
ouais,
dans le paysage politique
américain. Ouais.
Dans le paysage politique américain, je pense que même dans le paysage politique français en fait ce serait le centre-gauche. Hein. Faut arrêter les illusions sur chez nous. Ça ressemblera un petit peu à une opposition entre d'un côté, je sais pas, le New York Times, qui justement est tout le temps pointé du doigt par Trump, comme le failing New York Times, fake news, c'est horrible, etc. C'est un outil à charge. Et d'un côté, donc ATN, qui serait Fox News. Et donc, il y a cette espèce d'ambiguïté néolibérale face aux valeurs. À un moment, il y a mon personnage préféré, Greg, qui dit cousin Greg, donc qui est un peu une porte d'entrée dans cet univers, parce que c'est le cousin éloigné qui n'est pas vraiment riche et qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds dans cet univers et qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive, et donc on le place, tout le monde s'en fout un peu de lui, mais il finit par monter un petit peu à prendre en galon. Et donc Greg dit à Tom, le directeur de la chaîne, mais on peut pas recruter de gens comme ça, des fascistes, des populistes, ça se fait pas, on a des valeurs. Et il dit, fuck off, de quelles valeurs tu parles? Et il dit, je sais pas, par exemple, je suis contre le racisme. Mais ferme ta gueule, tout le monde est contre le racisme aujourd'hui. Et je trouve ça assez bluffant, notamment parce que il y a un mec que j'aime beaucoup, un journaliste qui s'appelle Carlos Mazza, a.k.a. Gay Wonk sur les réseaux sociaux, qui fait une série sur YouTube qui s'appelle Strike Through et qui observe pas mal Fox News. Et l'année dernière, il avait fait une vidéo en disant que Fox News brisa ses propres règles et ne respectait pas les règles du journalisme, et que c'était devenu une sorte d'outil de propagande pour les républicains. Donc par exemple, un de leurs journalistes phares, qui s'appelle Sean Hannity, est allé à un rallye de Trump et monte sur scène au début pour soutenir Trump, et il disait non mais ce sera impossible du côté gauche. Et à la première fois que j'avais vu cette vidéo là je me disais, mais quoi, un journaliste d'une chaîne info qui irait dans un rallye d'un parti d'extrême droite, enfin de droite très con, je vois pas de qui tu parles, Delaney. Donc du coup, est-ce que cette espèce de parallèle entre une famille super riche qui s'achète un média pour faire circuler des idées nauséabondes, est-ce que vous, amis journalistes, ça vous rappelle des choses qu'on pourrait retrouver de ce côté de l'Atlantique, ou alors vous voulez pas vous fâcher
avec... François balance des noms.
J'ai envie de garder mon taf.
Ok, d'accord. Non, je demandais juste comme ça.
Ouais, non mais c'est évident. De toute façon, il y a un gros problème en France de concentration de la presse, concentration des médias. Ça veut dire qu'en gros, la plupart des grands médias n'appartiennent qu'à une poignée de groupes industriels. On peut citer évidemment le groupe Canal+ de Bolloré, on peut citer le groupe Le Parisien, Les Échos, qui appartient à...
On va s'arrêter là.
À Lagardère, je crois. Mais c'est des gens qui sont connus, qui ont pignon sur rue. C'est
et
pas,
toi, l'œil investisseur de Binge Audio.
Tout à fait. Voilà, il y a un phénomène de concentration des médias. Et donc, on peut dire que quelques personnes... alors, c'est pas encore des empires familiaux. Enfin, si, Lagardère, c'est déjà un empire familial. C'est pas des empires familiaux, mais c'est des gens qui...
Bolloré aussi, un petit peu, non?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de transmission aux enfants, quoi. C'est des frères, quoi.
Ok. Et du coup, toi, Kevin, tu lis cette concentration-là?
Ouais, moi je trouve ça hyper intéressant parce que la chaîne info, c'est un peu le truc qui te permet, enfin pas la chaîne info, mais en tout cas l'organe de médias, c'est peut-être ce qui te permet au début de te faire un nom, etc. En tout cas, dans le cas de Logan Roy, et ensuite l'entertainment, donc les parcs d'attractions, le studio de cinéma et tout ce qui va autour. Les croisières qui partent en couille. c'est la façon de générer du cash et voilà, je trouve ça comme un business model assez fort et en fait, c'est rare qu'on ait des séries ou des œuvres de fiction qui parlent de ça aussi bien et avec un pied dans l'actualité. Je trouve ça assez classe.
En vrai, je te parlais de concentration des médias, mais c'est pas exactement ça le truc. C'est plutôt le rapprochement entre les médias et le monde des affaires. Ouais. C'est plutôt ça que décrit Succession, et c'est plutôt ça aussi qui se passe en France. C'est pas le fait qu'il y a quelques personnes qui dessinent les médias, c'est que ces quelques personnes, ce sont pas des gens de la presse, ce sont pas des gens qui viennent des médias. Ce sont plutôt des industriels et des hommes d'affaires.
Des gens qui sont là pour faire de l'argent. Ouais.
Oui, avant mais tout. Après, il faut qu'un média soit rentable, il n'y a pas de souci là-dedans. Le problème, c'est que parfois, ça peut créer des conflits d'intérêts.
Parfois.
C'est vrai que dans toutes les séries qui fonctionnent comme ça, où il y a un groupe qui cherche à arriver au top ou à garder le pouvoir, il y a cet aspect hiérarchique, quoi. Il y a un business et il faut que le business réussisse pour que tout le groupe continue à se gaver et à en profiter. Et dans Succession, c'est vraiment ça. C'est le clan, c'est la famille. Et voilà, c'est vraiment ça.
QLF.
Alors, c'est vrai que la série est bien écrite, les dialogues sont géniaux, drôles, horribles, tout ce que vous voulez. Tout le monde demande dans la rue donc à Brian Cox,
fuck off,
qui joue Logan Roy, de dire fuck off. Mais la famille Roy, elle est organisée autour de Logan comme l'entourage d'une star de hip-hop est organisé autour de la star. Ouais. Comme les mafieux s'organisent autour du chef dans Le Parrain aussi, par exemple. Il y a de l'admiration. Mais il y a des jeux de pouvoir et les coups de couteau sont jamais vraiment loin, en fait. Et donc, dans Succession, on a la famille de sang, les enfants, mais on a aussi les proches collaborateurs, Jerry, Alan, tout ça. Et on
les
a
intrigants aussi, les gens qui arrivent de l'extérieur, comme
qui
Ray,
qui essayent de s'incruster, j'allais dire, les relations amoureuses, pseudo-amoureuses, voilà. Et on voit tout le monde qui orbite un peu comme ça autour de Logan Roy. Et c'est vrai que dans le business est toujours teinté de sentiments hyper forts. Loyauté, trahison, haine, dévotion, amour.
Sacrifice.
Voilà. Et tous les personnages tournent comme des mouches autour de Logan. Ils le détestent et en même temps, ils le révèrent. Donc il y a vraiment cette tension pendant toute la série. Et du coup, ça nourrit une espèce de paranoïa qui se renouvelle à chaque épisode. À chaque épisode, là, on est putain, qu'est-ce qu'ils ont inventé cette fois-ci pour s'en sortir? Donc il y a un côté tragédie grecque. Et il y a un côté réalité du pouvoir. On est à mi-chemin entre un truc un peu mythique et un truc où on se dit, mais en fait, moi-même, en entreprise, j'ai déjà vu des gens qui fonctionnaient comme ça, quoi.
J'ai toujours trouvé que le business et la politique, c'était deux super sources d'inspiration pour des histoires dramatiques, quoi. Des bons personnages, des trucs. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film français, alors rien à voir avec Succession, qui s'appelle L'exercice de l'État, avec Olivier Gourmet. Alors, je l'ai trouvé nul, ce film, pour plein de raisons. Mais par contre, c'est vrai que ça dépeignait bien le monde politique. Et je me suis dit, putain, mais c'est dingue. En fait, tu prends n'importe quelle période, n'importe quel gouvernement, t'as des personnages, t'as des intrigues en deux minutes. C'est des scénarios clés en main, en fait.
Bah, c'est comme Game of Thrones, au final.
Ouais, mais Game of Thrones, c'est une...
Ouais, c'est un truc politique, avec des... Ouais. C'est vraiment...
Parfois, on cherche les personnages, on cherche la fiction, on cherche les idées cool, tu sais, dans des endroits un peu imaginaires, tout ça, alors qu'en fait...
C'est là.
T'ouvres la presse, tu regardes ce qui se passe dans les gouvernements et autres, et t'as des histoires clés en main, quoi, c'est ouf.
Mais dans tous les cas, le monde du hip-hop, je pense, se reflète et se reconnaît dans Succession, et c'est aussi pour ça qu'il y a un attrait... De sa part.
Il y en a d'autres que Pusha T qui ont big up, d'autres personnalités de hip-hop
En fait, pas dans les interviews, mais par contre, on voit que c'est souvent des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux. D'accord. Et HBO, notamment, maintenant un peu moins, mais au moment où Succession était diffusée, HBO postait beaucoup de trucs et ils partageaient, ils rigolaient. Là, comme ça, j'ai pas de nom précis, mais
Ça doit se retrouver.
Je suis sûr, par exemple, qu'un gars comme 50 Cent regarde Succession. En plus,
il a
Power.
C'est ce que j'allais dire. 50 Cent, il parlera jamais de Succession sur ce réseau.
Mais il en parlera pas. Tu vois ce que je veux dire?
Il va promouvoir.
Je suis sûr qu'il regarde.
Ouais. Est-ce qu'on peut comparer Succession à Empire ou pas du tout?
Bah, dans le sens familial, oui, il y a une famille, oui, il y a des enfants et tout le monde essaye de savoir qui va hériter. Mais c'est beaucoup, beaucoup mieux écrit que Empire.
C'est un peu plus fin.
C'est HBO, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de séries en ce moment, on le sait, il y a beaucoup de trucs sur Netflix et tout, mais moi je trouve que HBO, personne ne les touche en termes de qualité. Ils n'ont pas une mauvaise série, quoi. Bon, ils en ont eu, mais là, en ce moment, dans leur line-up, ils sont chauds.
Watchmen, oh là là, l'épisode 3 de Watchmen.
Voilà. Un autre aspect que je voulais évoquer, c'est l'absence de représentation dans Succession.
Et c'est bien.
Mais voilà, c'est ça, parce que on va pas vous mentir, c'est une série complètement blanche, mais pour une fois, c'est justifié.
Parce qu'il y a des Asiatiques qui passent vite fait, des Orientes. Enfin, ouais.
Parce que en fait, le monde que la série décrit est ultra particulier. C'est le microcosme des milliardaires de droite américains. Donc quelque part. Ouais. On est content de pas y être, tu vois. Et il y a même un moment dans la saison 1 où le personnage de Cousin Greg, donc, qui débarque dans l'entreprise à Waystar Rocco, regarde les vidéos d'intégration, vous savez, les vidéos horribles, complètement fake de l'entreprise,
Corporate.
Qui en font des caisses sur l'inclusivité, la représentation de toutes les races, tous les genres. Et du coup, il regarde ça d'un air un peu incrédule. Et à un moment, il se retourne et derrière lui, on voit passer un troupeau d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que ça dans la boîte partout. Et donc, la série est très maligne. La série est très consciente justement de cet enjeu-là et l'aborde frontalement. Elle montre le racisme complètement décomplexé des personnages, comme tu disais, Kevin. Et en fait, la série, on dirait qu'elle a compris elle-même. Et je pense que même les créateurs et les acteurs sont tous, eux aussi, en safari, quoi. Et ils sont là, eux aussi, pour observer le privilège blanc et la débauche que ça peut engendrer dans toute la splendeur.
Les décors, il y a des décors incroyables.
C'est le PIB d'un petit pays à chaque épisode. Et d'ailleurs, j'ai trouvé deux tweets de Rescapés du Zoo et qui sont aussi auditrices du Chip, j'ai l'impression. On a Clumsy Mummy qui disait « J'ai fini les deux saisons de Succession HBO. J'aime trop les dramas des familles blanches. En plus, là, ils sont riches. Le season finale est ouf. Oui. » Et on a Clem Cancel qui dit « J'adore regarder des incompétents gérer des méga-entreprises et des vies juste parce que c'est une riche famille blanche. Aussi, la manière dont le père arrive à tous les manipuler. Game of Thrones is shaking. » C'est vraiment ça. C'est vraiment l'impression qu'on a en regardant Succession. Et je pense que c'est aussi pour ça que la série crossover, c'est pas juste un truc réservé aux personnes qu'elle représente.
Une bonne série, c'est une bonne série.
Ouais. Et alors, pour terminer, ce que j'ai envie de dire, c'est que Succession, c'est une série pour l'ère Trump. Comme tu disais, Kevin, on retrouve beaucoup de choses de l'ère actuelle. Et j'ai l'impression que si la série résonne autant avec la black culture, c'est non seulement parce qu'elle reprend évidemment les codes du hip-hop et de l'organisation pyramidale, de groupe, mais aussi et surtout parce qu'elle nous permet de pénétrer dans la vie de l'ennemi. Elle nous permet d'aller voir comment ça se passe un peu chez la vie des Trump, des Murdoch, des ultra-ultra riches, des ultra-ultra républicains, des 1% du 1%, de ceux qui se déplacent en jet privé ou en hélico pour faire 100 km. Et ça nous permet aussi de comprendre à quel point ils sont pas plus intelligents ou pas plus ingénieux que les autres en vrai, mais qui sont aussi surtout parfois très bêtes, très cruels et qui peuvent pas perdre dans le game en fait parce qu'ils sont beaucoup trop gros pour échouer, ils ont beaucoup trop de ressources, il y a rien qui les fera tomber, enfin tu vois les
si,
enfants
les trucs qui peuvent les faire tomber c'est l'absence d'amour de papa.
Oui.
Voilà.
Voilà. A kiss from daddy.
A kiss from daddy. Mais je le pense hein.
Mais du coup Il y a un moment, je crois que c'est dans la saison 1, où tu te rends compte qu'en fait, on peut clairement faire exploser une fusée parce qu'on veut impressionner son papa, quoi. Et il y a zéro conséquence, tout se passe bien pour toi. Donc pour moi, Succession, c'est la personnification du même « Donne-moi la confiance d'un homme blanc médiocre, s'il te plaît, Jesus ». Mais ce qui est intéressant pour finir, c'est que les personnages de Succession sont putain de malheureux. Ils vivent dans la terreur permanente de tout perdre. Ils n'arrivent pas à aimer les gens, ils n'arrivent pas à profiter de la vie. Et c'est tout ce qu'on souhaite en vrai aux Murdoch et aux Trump et aux familles de blancs milliardaires qui détruisent les démocraties et la planète. On vous souhaite le pire, comme dans Succession.
Alors, après cette belle démonstration de Mélanie Karl Marx Wonga, moi, je voudrais vous parler de Dolomite is my name. En ce moment, il y a des discussions passionnantes autour du stand-up, de la cancel culture, de la liberté d'expression. Et j'ai moi-même eu plein de doutes, je change souvent d'avis, je sais pas comment me situer. Mélanie, tu m'as envoyé un article vraiment cool de The New Republic sur cette question-là. Comment je me sens? Moi, je crois que d'un côté, il y a MeToo qui a touché de plein fouet le monde du stand-up, et les réactions de comédiens que j'aimais ont souvent été décevantes, voire malaisantes. Il y a pas longtemps, par exemple, je regardais le special de Dion Cole et c'est très bien, je vous le recommande. Mais malheureusement, il y a le sempiternel « Vous êtes trop sensible, on peut plus rien dire ». Et il dit ça tout en étant payé devant une salle comble, le tout diffusé sur la plus grosse plateforme de streaming. De notre côté, je pense qu'une personne adulte devrait être capable d'entendre un avis contradictoire sans faire une descente d'organes. J'ai vérifié, c'est pas sexiste. Les hommes peuvent en faire aussi. Pourquoi ce préambule ? Tout simplement pour vous parler du retour du roi du stand-up, Eddie Murphy. Pas encore sur scène, mais au ciné, dans un film, enfin pas vraiment au ciné puisque c'est sur Netflix, dans un film qui s'appelle Dolomite is My Name. Dolomite, c'est un personnage de stand-up puis de cinéma interprété par un mec bizarre et assez méconnu. Rudy Ray Moore, rarement mentionné au panthéon des grands comédiens américains, et on va voir pourquoi. Mais d'abord, bande annonce.
All my life, people been telling me no.
Rudy. Sometimes our dreams just don't come true.
A man slammed a door in my face. I just find another door.
I want the world to know I exist.
You can write.
This ain't funny. And it ain't no brothers in it either.
If I get up in that light with my own movie.
Alors, le film est sorti il y a deux semaines, une dizaine de jours. C'est réalisé par Craig Brewer, à qui on doit Black Snake Moon et quelques épisodes.
Ah, trop bien ce film.
Quelques épisodes d'Empire aussi. De la série Empire, et donc ça parle de Rudy Ray Moore, qui est Rudy en deux mots, et c'est Eddie Murphy qui le dit. C'est un loser qui refuse la lose. Il est né et a grandi dans l'Arkansas profond, il est né en 1927, là le film se passe dans les années 70 à Los Angeles, il fait du stand-up et il va d'échec en échec. Et puis un jour tout va basculer. Il ne crée pas vraiment, plutôt il s'approprie le personnage de Dolomite. Dolomite, c'est une sorte de proxénète exubérant qui triomphe de toutes les situations et qui a un palmarès sexuel assez surprenant. Saviez-vous que King Kong a pleuré quand il a surpris Dolomite en train de donner du plaisir à Maman Kong? Donc voilà, Dolomite, c'est quelqu'un qui n'a honte de rien, qui a toujours réponse à tout. Enfin, c'est vraiment le pimp invincible. Et il ne s'exprime qu'en rime, le tout accompagné de bon goût. Le côté rime, on en parlera
spoken
plus tard.
Spoken word et tout
spoken
ça.
Spoken word et justement, Godfather of Rap, tout ça, tout
bien
ça.
Bien sûr.
Pour une fois, justement, avec ce personnage de Dolomite, Rudy va rencontrer le succès. D'abord, un succès local, mais un succès quand même. Il a presque 50 ans, donc il connaît vraiment le succès très tard. Mais il croit en sa bonne étoile et veut en faire un album, puisqu'aux États-Unis, on fait des albums en vinyle, de comédie, qui veut le distribuer. Dans le milieu des maisons de disques, personne n'en veut. On lui dit que c'est filthy, sale, crade, crasseux.
Nasty.
Mais il s'en fout, il se laisse pas faire. Et ce qui est assez fort, c'est que les années 70, c'est une période un peu charnière pour la liberté d'expression aux États-Unis. Dans la décennie d'avant, il y a un type comme Lenny Bruce qui, justement, a souvent dépassé les limites.
Qui est dans Mrs. Maisel, la série d'Amazon.
Exactement. Il est dans Mrs. Maisel, série Prime Video. Il apparaît dans la première saison. Et donc, c'est une période de libération des mœurs parce que c'est, par exemple, le début des années 70, c'est Gorge Profonde, donc l'âge d'or des cinémas porno aux États-Unis. Et donc, ça fait un carton, les salles de porno. On voit ça aussi dans la série avec James Franco et Maggie Gyllenhaal. Ouais, comment ça s'appelle
The Deuce.
Ouais, The Deuce. Et donc, Rudy fait remarquer qu'on ne peut pas dire « to suck a cock » sur scène, mais on a le droit de performer tout ça.
C'est son producteur, je crois. C'est un producteur qui lui refuse son album, qui dit...
Exactement. On peut dire « cocksucker ».
Mais t'as pas le droit de dire...
« suck a cock voilà. ». Et il fait « mais on peut suck a cock à l'écran, quoi. À peu près à la même époque. Donc c'est assez intéressant. Donc lui, il va d'abord le faire en indépendant. Il va vendre ses albums depuis le coffre de sa voiture.
C'est génial, ça, quand ils font des petits trucs avec des petits démons en disant « ouais,
ouais les, ils c'est mettent raunchy, le tampon et tout, pour adultes ». Et son succès underground va attirer l'attention de l'industrie. On va enfin lui donner sa chance pour de vrai. Rudy va jouer la carte de la provoque à fond, notamment avec la pochette d'album.
Ouais,
vous vous souvenez de cette scène
sur l'espèce de marquise là.
Sur donc la pochette de l'album, c'est assez fou. C'est Donc lui, il est buste nu, en fait il est nu, on voit juste son buste nu derrière un canapé, et sur le même canapé, il y a une femme noire allongée, pubis à l'air. 45 ans plus tard, la pochette est toujours censurée, il y a un bandeau noir en fait sur le pubis, où c'est écrit un truc du style classé double X, réservé à un public...
Très averti.
Très averti, public adulte, etc. Énorme succès. Ce qui va entraîner une tournée à travers le pays sur ce qu'on a appelé le Chitlin Circuit. Le Chitlin Circuit, c'est... En fait, les Chitterlings, c'est des tripes de porc. C'est de la soul food.
C'est des abats, quoi.
C'est les abats, exactement. Mm. Et c'est pas, l'idée, c'est que c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pour acquired taste. C'est pour les gens qui connaissent. C'est pour le public, un certain public noir américain. Et donc, on va trouver ça dans les grandes villes. Donc voilà, ça, c'est le premier grand succès. Et le film aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'un jour, Rudy et ses amis, ils vont au cinéma. Ils vont voir un film dans un ciné, un film qui s'appelle The Front Page, qui est un classique du cinéma américain que je n'ai pas vu, avec Jack Lemmon, et ils se font chier. Il ressort du film en disant « These movies ain't got no titties, no funny, no kung-fu. Il n'y a pas de nichon, pas d'humour et pas de kung-fu. Je comprends pourquoi ça marche. »
Leur réaction dans la salle quand ils sont face au film, j'avais l'impression de me voir moi devant Intouchable. Et devant qu'est-ce qu'on... Je te jure, je me suis vu devant Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans cette salle de Neuilly-sur-Seine. God damn.
Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas, frère?
Franchement.
Donc, c'est là, en fait, qu'il se dit qu'il va faire un film. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on parle de Blaxploitation, même si Dolomite, ce n'est pas complètement exactement de la Blaxploitation à la base.
I don't know when that phrase Blaxploitation got coined, but I know that period for us was like that. That's when we were finally getting to see us on the screen. That was big part of it. Yes, and the movies, the quality of the movies is because the budgets were really low, so... You know, but we were seeing black stories and black actors and black actresses.
Who?
Yeah, all
of cast members. So working together.
Sur un autre média, on avait déjà parlé de Ganja et S, de réalisateur Bill Gunn. On avait aussi parlé de Space is the Place avec Sun Ra, le jazzman afro-futuriste. Ça fait aussi partie de la Blaxploitation. Donc la Blaxploitation, souvent, on a tendance un peu à réduire, à imaginer que c'est juste Shaft et Superfly. Oui, Shaft et Superfly, c'est de la Blaxploitation, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a tendance un peu à caricaturer ce style comme des trucs hyper vulgaires et violents, et c'est plus complexe que ça. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une sorte d'hétérogénéité de la culture noire. En interview, il y a Michael Keegan Key de Key & Peele.
Keegan Michael Key.
À chaque fois, je fais le disque.
L'acolyte de Jordan Peele.
De Jordan Peele, c'est ça. En interview, il explique que le public noir, c'est pas un monolithe, c'est une mosaïque. Et en fait, lorsque Rudy Ray Moore arrive avec son projet de Dolomite le film, les producteurs noirs de Blaxploitation disent mec, on veut pas, c'est dégueulasse, ça marchera jamais.
Il y a un producteur qui est incarné par T.I. J'ai eu tellement de mal à le reconnaître. Vraiment, j'ai tiqué.
Un rappeur qui dit ouais, non, chaud, on peut pas diffuser ça. Et en fait, l'histoire de la Blaxploitation est aussi liée à une histoire des migrations internes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au milieu du XXe siècle, il y a eu une arrivée des populations noires dans les grandes villes et il y a eu ce qu'on appelle le white flight. Les populations de la classe moyenne blanche
se sont
cassées en banlieue.
Dans les suburbs.
Voilà. Et du coup, les beaux cinémas du centre-ville ont dû s'adapter à ce nouveau public. Et c'est là qu'on a des films où le public noir qui va, le public urbain. Justement, c'est à ce moment-là que le mot urbain aux États-Unis prend une coloration raciale. Lorsque aux États-Unis, on dit « it's a bit urban », ça veut dire que c'est noir, en fait. Et ça vient aussi de...
Et donc, pourquoi en France, on dit musique urbaine alors que non?
Parce qu'on n'a pas, d'imagination. En vrai, en France, dans beaucoup de grandes villes, c'est pas le cas de toutes les villes, le hip-hop est plutôt une musique périurbaine.
Bah oui.
Mais on dit... pop urbaine, musique urbaine, culture
musique
urbaine.
De la ville, poésie de béton.
Voilà. Et donc, ce truc-là, c'est aussi fort pour ça.
In the 70s, there was a little period called the Black Exploitation Era where they was doing all these different types of movies. And he couldn't get in with them. They were like, nah, we don't want to work with you. It's like, I can't even make a Black Exploitation movie? It was like, no. So he had to go back door and get his own stuff made. And he became like a little hero of mine. He was like this guerrilla filmmaker from the 70s.
Well, this is a fairly famous album cover of his. Now, I'm going to show this to the audience. And
yeah, you can't show that on TV.
Ça, c'était aussi un retour sur justement la pochette dont on parlait. Murphy était chez Stephen Colbert et Stephen Colbert montre en direct en fait la pochette de l'album, du fameux album Eat Out More Often, manger plus souvent à l'extérieur. ou autre chose. Et il dit, on peut pas montrer la couverture de cet album. On peut pas, je pouvais pas, Rudy Raymond pouvait pas non plus faire un film de Blaxploitation. Donc, do it yourself. Et c'est là où le film, pour moi, est une histoire vraiment américaine. C'est une histoire un peu de underdog, du perdant qui croit à sa bonne étoile et qui va tout parier, en fait. Il prend une énorme prise, enfin, il fait une énorme, il y a une énorme prise de risque financière pour réaliser ce film. Il met dans la balance les royalties de ses albums. Et le problème, c'est qu'il ne connaît rien au cinéma. Et quand je dis rien, c'est pas juste qu'il n'a pas de culture cinématographique, il connaît rien à l'aspect technique.
Caméra, c'est quoi lumière, un chef-op
son... C'est quoi un chef-op,
chef-op.
Il a un tout petit budget, il va retaper le Dunbar, c'est une sorte d'hôtel délabré pour en faire un studio. Il s'entoure d'amateurs et de débutants. Et le tournage est épique, mais Rudy se décourage pas.
Toutes les scènes de tournage sont mortelles.
C'est hallucinant, les scènes de sexe, les scènes de course-poursuite.
Ouais, ce qui est marrant, c'est de voir comment finalement leur manque de moyens et de professionnalisme et d'expertise les a amenés à créer une forme
créatif.
De cinéma créatif, quoi. Ça, c'est cool.
À la fin du film, ses amis lui lisent la presse, les journaux qui inscintent le film. Tout est très négatif, mais il y a une critique qui va lui remettre du baume au cœur. C'est on dit le film est gras, vulgaire, mal poli. Et en fait, ça lui convient parfaitement. Il dit gras, vulgaire, mal poli, c'est génial, c'est exactement ce que les gens veulent voir. Ils veulent aller voir jusqu'à quel point je suis gras, mal poli, vulgaire, etc. Donc évidemment, c'est un succès surprise. Il va faire 7 autres films. Il va continuer à fuck up des motherfuckers jusqu'à la fin de ses jours en 2008. Et en conclusion, j'ai envie de citer Eddie Murphy qui dit que ce qui est intéressant avec Rudy Ray Moore, c'est que justement, c'est pas un grand comique. Mais il croit en son truc et c'est ça qui le rend drôle. C'est son culot et son énergie, plus que son écriture, qui en font quelqu'un de marquant. Eddie Murphy dit « Je ne connais aucun comédien qui regarde Rudy Ray Moore en disant « C'est ça que je veux devenir ». Mais par contre,
l'énergie
qu'il a est assez forte. C'est pas Richard Pryor, c'est pas Dick Gregory, c'est même pas Eddie Murphy. Eddie Murphy est trop beau et trop fort et trop talentueux pour être Rudy Ray Moore. Et pourtant, l'influence que Rudy va avoir sur la culture jusqu'à la fin de ses jours et même après est massive. Le fait qu'il ne s'exprime qu'en rime, ça va lui valoir justement le surnom de Godfather of Rap. Alors, soyons honnêtes, il y a une vingtaine de mecs qui eux aussi
pourraient prétendre à
tout ça. Il y avait notamment Jill Scott Heron, dont j'avais
bien
parlé
sûr,
une fois. Rudy, c'est l'exact opposé de Jill Scott Heron.
Ouais.
Quand Jill Scott Heron est cultivé, un peu nonchalant, qu'il dénonce, etc., Rudy Ray Moore, c'est pas conscient. Hein. C'est vraiment les putes, les trucs comme ça.
Mais
c'est un cadavre exquis, quoi.
Justement, à propos de cette histoire de rime,
ouais.
Moi, je trouvais ça intéressant et j'aimerais savoir ce que t'en penses, ce que vous en pensez. Donc, il crée son personnage de Dolomite en observant des sans-abri, des SDF, qui ont cette habitude, en fait, de raconter des histoires un peu fantastiques.
Un peu cracra.
On peut voir ça comme une sorte de réminiscence de la culture du griot ou du conteur, peut-être. Et en gros, ils font ces espèces d'histoires en rime avec des animaux et ce personnage de Dolomite aussi, qui est créé, du coup, enfin, qui
est colporté. Sachant qu'avant, il faisait des flops. Parce qu'il avait
ça. Avec ses propres routines, Rudy Ray Moore faisait des flops. Et en fait, dans le film, il observe les SDF, il les enregistre, en fait, et il plagie littéralement leurs histoires avant d'aller un peu plus loin dans la création artistique. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut appeler ça l'appropriation culturelle, dans le sens où on a quand même un emprunt qui va un peu plus loin qu'un emprunt, c'est carrément un plagiat, à des fins de reconnaissance, de commercialisation. Alors, je veux bien être d'accord que voilà, il s'agit d'un mec qui fait partie de la communauté noire, mais il y a aussi un clivage de classe sociale et il y a aussi une population qui a donné lieu à ça, à ce folklore, qui n'a pas été rétribué.
Je pense, moi, le personnage de Dolomite et dire qu'il y a de l'appropriation ou du plagiat, c'est comme si tu te lançais dans le stand-up pendant 20 ans et que ça ne marchait pas et un jour tu devenais Toto. C'est comme si tu disais « C'est moi, Toto ». Tu connais les blagues de Toto ? Et qu'en fait, tu devenais Toto. T'as volé personne, en fait. C'est une espèce de conscience collective, de zeitgeist culturel. Et Rudy Ray Moore, il viendrait de la haute, ce serait le fils de Logan Roy, et il prendrait ce personnage des bas-fonds noirs de Los Angeles des années 70. Ce serait hyper problématique. La différence, c'est que Rudy Raymond, mais il habite là-bas. Ouais. Il habite là-bas, il est avec ces gens-là, et ouais, effectivement, il en est pas très loin.
Peut-être que finalement, son vrai talent, ça a été celui de reconnaître qu'il y avait une manière de commercialiser et de rendre ça. Ouais.
Mais je suis d'accord, ce passage-là, ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit, ah ouais.
Je me suis demandé, est-ce que finalement, c'est pas, on peut pas aussi faire l'appropriation culturelle dans sa propre communauté. Ouais. Mais j'aime, voilà. J'aime bien ton explication. Et je pense aussi quand même qu'il a eu l'intelligence de voir qu'il y avait d'entrecroiser ce folklore noir afro-américain avec le show business.
J'ai deux mots pour finir. C'est d'abord que faut que j'arrête avec les trucs en deux. Ça m'a donné envie de revoir un film qui c'est pas vraiment un film de Black Exploitation puisque c'est un peu de la parodie.
T'as maté Black Dynamite au moins, le dessin animé trop bien.
Ah frère.
Bon, okay.
C'est de ça que je parle.
Okay,
dans Nos Ciné, il y a quelques jours, a fait un numéro assez cool justement sur Dolomite où ils ont bien aimé. Donc quand ils parlent pas de films de super-héros, je suis d'accord avec eux. sauf qu'à la fin de l'épisode, ils disent que ça a donné lieu à Black Dynamite et qu'ils aiment pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Black Dynamite et je pense que c'est un chef-d'œuvre. Suckers gather round. There's a brand new movie coming to town. So get on up and check the scene of the smoothest, baddest mother to ever hit the big screen. Main man, Black Dynamite. He's super cool and he know kung fu. Drives a $5,000 car and wears a $100 suit. You're so righteous. This is also true. And when it comes to the ladies, he's out of sight. Let me guess. You one of these brothers think you can get by on a wink and a smile, huh? What about the smile? I am smiling. donc voilà, allez voir ça. Et juste un dernier mot.
Le dessin animé aussi.
Le truc dont je vous parlais au début, on peut plus rien dire. Ben, moi, je sais pas quoi répondre à ça, tout simplement parce que Rudy Ray Moore, 11 ans après sa mort, il a un film qui lui est dédié. Ce film, c'est un succès critique. Eddie Murphy va faire son retour sur scène. Il a un deal avec Tadon et il va faire une tournée nationale en 2020.
Donc, c'est son premier bon film depuis un petit
moment.
Quoi.
C'est vrai que j'ai vu des films vraiment pourris.
Attendez, non, moi j'ai vu plus de mauvais films qu'Eddie Murphy que vous. J'en ai vu aussi.
T'as vu le film où il peut plus parler ?
Oui, c'est celui-là.
Ah mon dieu, le traumatisme.
J'en ai vu. Enfin,
ah mon dieu.
Et en fait, on vit une époque formidable. C'est-à-dire que en même temps, on peut dire qu'on peut plus rien dire, mais des gens qui étaient censurés il y a 45 ans ont droit à des films sur des énormes plateformes de streaming, donc c'est que tout va bien, la culture...
Vous pouvez continuer à dire des choses.
Vous pouvez continuer à dire des choses, c'est juste qu'il y a un prix à payer, qu'il faut arrêter de chialer lorsqu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous. Voilà.
Alors ma recommandation pour cette émission, c'est un très court trailer d'une minute qui s'appelle Anti. Alors, vous connaissez Le Prince de Bel-Air, on en a déjà parlé dans l'émission, on a même reçu Greg Germain, le doubleur français de Will Smith. Et en fait, vous avez remarqué que au milieu de la série, l'actrice qui incarnait Tante Viviane, Aunt Viv, Janet Hubbard, a été remplacée. Au bout de 3 saisons, elle a été remplacée par une autre actrice.
Une affaire tristement célèbre dans la
tristement célèbre. Elle a été remplacée par une femme plus light skin, hein, mon Dieu.
Alors, je t'interromps pas, mais il y a un truc intéressant sur ça.
Oui, parce qu'on ne sait pas vraiment les vraies raisons. Différents acteurs de la série, comme Alfonso Ribeiro ou justement Jane Hubbard elle-même, se sont exprimés. Il y a différentes versions. On pense qu'il y a un problème de paye du casting. Il y avait aussi apparemment une mauvaise ambiance sur le tournage à cause de cette actrice. Mais justement, l'actrice dit que c'est parce qu'il y avait problèmes de paye et qu'elle essayait de protester, qu'elle était vénère. Voilà. Donc, bon, bref. En tout cas, elle a été remplacée au bout de 3 saisons par Daphne Maxwell Reed. Voilà. Et donc, en fait, Anti, c'est l'œuvre d'un réalisateur américain qui s'appelle Bobby Huntley. Qui s'est dit, et qu'est-ce qui se passait si on faisait revenir Tante Viviane dans la maison, donc le fil, ouais, la vraie, dans la maison, donc le fil. Donc, il a imaginé un scénario. Où Tante Viviane a été en fait internée dans une sorte d'asile ou d'hôpital psychiatrique, ouais. Et elle finit par sortir de l'asile et elle revient dans la maison à Bel Air. C'est pas un slasher, c'est plutôt un thriller psychologique avec un champ de référence totalement assumé entre Fresh Prince évidemment et Get Out. Même dans le générique, vous verrez, c'est du Get Out tout craché. Et du coup, elle revient dans sa maison. Et évidemment, à sa place, il y a la nouvelle Tante Viviane. Donc en fait, les deux actrices ont été magnifiquement castées parce que ce sont deux sosies parfaits. Tout le casting, de toute façon, a été casté pour être des sosies parfaits des acteurs de la série originale. Et donc, elle revient dans cette maison. Il y a Aunt Viviane qui est là. Et donc, tout le monde dit, mais qui est cette femme qui a pris ta place, enfin, qui est la vraie, qui est la fausse, et qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que c'est ça dans ta tête? Est-ce que c'est un paradoxe? Bref. We have company.
c'était Jeffrey.
Ouais.
Hello. How you feeling, Bex? Would you care for anything to drink?
No.
Guess who's here?
I don't know what's going on, but I'm here to find out.
Well, big guy, if she knows you so well, why don't you know her? You don't know her. Why are you here?
Son, that's enough.
Donc voilà, après le faux remake version année 2010, vous savez, et woke un peu, qu'on a eu du Prince de Bel-Air, qui va peut-être aussi devenir soit une série, soit un film, on sait pas trop. Voilà, on voit que le Prince de Bel-Air continue de revenir à la mode, et cette espèce de croisement de références est génial. À un moment, on voit la nouvelle tante Viviane qui a, vous avez entendu ou pas pendant le trailer, la tasse,
avec la cuillère. D'accord, j'ai pas compris. Okay.
Voulez-vous du thé?
Donc voilà, Bobby Huntley espère en faire un film. Moi, j'espère vraiment que ça deviendra un long métrage, parce que c'est un très 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 beau travail de référence, et on big up ça. C'est sur YouTube et c'est gratuit. De toute façon, on met le lien comme d'habitude dans les références.
Ouais, moi je vais être rapide. Ma recommandation, c'est un podcast d'un auteur qui s'appelle Tim Allo, et je vous fais écouter un extrait tout de suite.
Bien bonjour. Ou envie tonne créole, ou envie voix belle à langue là, ou envie connaître créole pigné, podcast là ça c'est pour. Nous un podcast là c'est tonne et comprendre. Ou peut écouter aussi iTunes, Spotify, Castbox, Google Podcast et tout d'autre côté où tu l'as qui n'est podcast. Si y'a gouao, bayon 5 étoiles, mettons qu'à mon maman aussi si vous payez ça qui fait un plaisir. Et bien, certains qui nous connaissent, des contents dans un podcast comme ça en créole, voyez l'information là-bas, s'il vous plaît. Non, moi, c'est Timalo. Si vous voulez connaître plus de bite en l'air, moi, vous pouvez aller à www.timalo.com. Et moi, je vous dis, à tantôt.
Alors que François Hollac continue à recevoir des louanges de son épisode de
ça va finir dans Télérama, ça j'en suis sûr.
En créole.
Et Tim Allo lui-même, justement.
Ouais, j'ai vu ça hier, pas plus tard qu'hier.
Ça fait tellement plaisir.
Tim Allo, c'est un auteur guadeloupéen qui a écrit plusieurs livres en créole autour de la série Diablesse, et qui, depuis quelques mois, a lancé son propre podcast en créole. Et je l'écoute. Je vous recommande de tous de l'écouter si vous êtes créolophone, ou en tout cas si vous avez envie de découvrir la langue ou de perfectionner la langue. Il y a beaucoup de choses, notamment sur la grammaire, sur le fait que une langue c'est normé et qu'il y a des règles et tout ça, et il le fait bien. Ça dure en général entre 5 et 10 minutes, c'est super digeste. Et en fait, Tim Allo, j'ai découvert par le travail d'une ancienne recommandation qu'on avait eue avant, le Moicast de Samoura, il l'avait reçu il y a quelques mois, et c'est comme ça que j'ai découvert son travail, c'est super bien. Donnez-lui de la force. J'ai découvert que W en créole se disait Wé, puisqu'il dit www.timallo.com. Et c'est la classe. En fait, ouais, c'est un des trucs que j'ai envie de faire, parce que toute la journée, je me retrouve à parler une langue étrangère, l'anglais, et je me rends compte.
J'allais dire le français, ok, brother.
Non, non, mais voilà, je suis guide touristique pour étrangers, donc je me retrouve à parler anglais, et je me rends compte que le créole, c'est une langue que j'ai jamais apprise de façon, écrite. C'est-à-dire que c'est à la radio, les chansons, Martinique, etc., mais c'est pas une langue pure.
C'est comme ça qu'on.
Que ça se transmet, ouais.
L'apprend.
Mais en vrai, il y a des gens qui font un vrai travail, j'ai envie de dire universitaire, pour donner ces lettres de noblesse à cette langue. Ça passe aussi par ça. Donc, je me suis aussi acheté la grammaire du créole martiniquais de Pierre Pinalier et de Jean Bernabé. Donc, ça va sur ma grosse pile de livres à lire. Et puis, je lirai aussi, je m'achèterai Diablesse de Tim Allo et Big Up à lui. Tu voulais dire un truc, François ?
Oui, et merci à Laïla Véron également pour son petit Big Up. Toujours sur la thématique du créole. Elle a fait un thread super intéressant sur ce qu'on appelle en linguistique l'insécurité linguistique. Ça m'a fait également super plaisir. Je suis toujours super content d'avoir des retours sur cet épisode, parce que finalement, c'est un épisode qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc, écoutez son podcast sur Binge Audio, parlez comme jamais.
Et pour finir, je vais vous parler de stand-up. du coup, voilà, exactement. Je vous donne la description vite fait de Smart and Classy, le stand-up de Arsenio Hall sur Netflix. Dans son nouveau spectacle de stand-up, Arsenio Hall réfléchit sur le passage du temps, l'évolution des cultures, les enjeux sociaux et les orteils. Spoiler alerte, le passage sur les orteils, c'est le plus drôle de tout le spectacle. Donc Arsenio Hall, on ne le connaît pas vraiment en France, sauf pour le rôle de l'ami d'Eddie Murphy dans Un prince à New York.
Exact.
Mais aux États-Unis, il est vraiment, vraiment famous, notamment pour The Arsenio Hall Show, son émission de late night qui a été diffusée entre 1989 et 1994. Et aussi et surtout pour le fait qu'il ait gagné The Celebrity Apprentice en 2012, l'émission de Donald Trump. Il en parle dans le stand-up. Alors, Arsenio Hall, il a 63 ans, donc il a un certain âge. Il ne les fait pas du tout. Moi, je pensais qu'il avait 40 ans, mais non. Mais il n'est pas aussi réac qu'on pouvait s'y attendre, Dave Chappelle, sur les questions de cancel culture, de on ne peut plus rien dire. Parce qu'en fait, il a énormément d'autodérision. Il se moque, par exemple, du fait qu'il a une copine de 20 ans de moins que lui. Parce qu'il est dans le show business. Il se moque de sa difficulté à accepter que son ex-mentor, Bill Cosby, eh ben aujourd'hui, c'est un violeur emprisonné, alors que O.J. Simpson est en liberté. Tu veux dire quelque chose?
Ouais, j'avais un truc à dire là-dessus. Dans Dolomite, il y a un petit tacle à Bill Cosby. La tante de Rudy Ray Moore lui dit « Tu vas faire du stand-up, du gentil stand-up comme Bill Cosby » parce que cette époque-là, c'est justement le moment où Cosby devient familial.
Dit à tout le monde.
Et après, il devient violeur moralisateur.
Mais voilà, il en parle dans le stand-up. Il dit « Ouais, c'était mon mentor » et il me disait toujours « T'as pas besoin de faire des trucs crasseux et tout. » Donc voilà. Et il se moque beaucoup d'ailleurs de O.J. Simpson et du fait qu'il a très peur d'O.J. Simpson, que sur scène, il arrive à s'en moquer. Mais une fois, il l'a vu en vrai, il lui a dit hey, Jude, et du coup il se moque aussi beaucoup de lui-même du fait qu'il a tout le temps envie de pisser parce que maintenant il est vieux et qu'il est accro à son téléphone et à Candy Crush, donc c'est bon enfant. Et moi ça m'a rappelé vraiment un peu l'humour entre Jerry Seinfeld et Eddie Murphy, c'est un peu à cheval quoi. Donc Arsenio à un moment redit qu'ils sont en train de tourner Un Prince à New York 2, mais que maintenant ils sont tellement vieux avec Eddie Murphy que ça lui fout le bourdon de dire que le 1 c'était il y a 30 ans. Et à des moments effectivement il touche au sujet du politiquement correct, de la cancel culture, mais ce que j'aime bien c'est que c'est plus en tant qu'observateur et sur un ton un peu pas résigné, mais en tout cas il prend de la distance quoi, par rapport à tout ça. Il se moque beaucoup beaucoup des politiques, ça j'aime bien, et il invente même un rap de Kanye West pro-Trump qui s'appelle Grab a Pussy, et il chante Grab a Pussy, Grab a Pussy. Enfin, c'est un moment assez drôle. Et il passe 10 minutes, par exemple, aussi à parler de lotion, que c'est que les black people qui peuvent comprendre le lotion. Il dit, vous, les blancs, vous savez même pas ce que ça veut dire.
Hachi. Ouais, voilà. Bieber en parle. C'est très drôle quand Bieber en parle.
Et donc, je redis le passage sur les orteils. Moi, ça m'a terminé. J'ai vraiment trouvé ça excellent. En fait, il alterne le léger, le sérieux. Ça marche plutôt très bien. La salle est très intimiste. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est une petite salle pour un Netflix spécial. On est habitué aux trucs énormes à plus de 1000 personnes. Là, c'est un petit truc. C'est pas une grosse foule, mais on rigole bien. Il y a une bonne ambiance chaleureuse. Il y a de l'interaction avec le public. Et on passe un vrai bon moment devant ce stand-up, devant ce special. Donc, Smart and Classy sur Netflix.
Toutou. C'était le Chip, on revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram, @lechippodcast. Surtout, achetez le jeu si vous voulez nous faire plaisir ou vous faire plaisir, ou faire plaisir à vos amis aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes vos applis de podcast habituelles, tous vos marchands de journaux, vos papeteries peut-être un jour. Laissez-nous une review sur Apple Podcast et mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement si vous le voulez bien. Cette émission a été réalisée par Victor Dubin, qu'on remercie, et coproduite par Binge Audio.
Merci.
À dans deux semaines.
Salut.
Et on se voit le 15 novembre. Bisous.
Bye.